Emmanuel Bove, L'impossible amour. Chapitre 1. La femme aux gants. En 1932, il existait, comme aujourd'hui, comme jadis, des jeunes gens qui, malgré les difficultés qu'ils voyaient s'accumuler sur leur chemin, rêvaient de devenir de grands artistes. L'un d'eux est justement notre héros. Il s'appelle Florent Mauga. Il était âgé de 24 ans, et il habitait un atelier de peintre, l'atelier numéro 7 de la cité Serra, rue de la Tombissoire. Au moment où commence cette histoire, c'est-à-dire dans les premiers jours d'avril 1932, Florent Mauga était au comble de la joie. Faute d'argent, il avait été contraint depuis des mois de ne peindre que des natures mortes, absolument mortes, car il ne pouvait même acheter des fleurs ou des citrons, lorsque, au milieu de mars, le hasard lui avait fait connaître la fille d'un commerçant du quartier des Gobelins, qui était tombée amoureuse de lui et qui s'était offerte de lui servir de modèle. Il avait accepté avec enthousiasme, si bien que cette jeune femme, dont le prénom est Irène, n'avait pas douté qu'elle n'eût fait grande impression sur l'artiste, convaincue qu'elle était que cet enthousiasme avait été provoqué par son charme. À la cinquième séance, elle fut prise pourtant d'un soupçon. Florent, dans son ardeur, n'avait-il pas laissé échapper qu'il était d'une laideur qui, à son point de vue d'artiste, surpassait ce que le monde appelait la beauté? Le lendemain était une journée radieuse, la première de l'année. Florent n'avait aucune envie de travailler. Par la fenêtre ouverte, il apercevait le ciel bleu et il était la proie d'un grand malaise. Il aurait voulu pouvoir partir, voyager, se rendre en Espagne, par exemple, pour y admirer tous ces chefs-d'œuvre dont il avait tant entendu parler. À 2 heures, exact rendez-vous, Irène Papin frappa à la porte. Le peintre quitta à regret le fauteuil démantibulé mais confortable dans lequel il venait de rêver longuement à sa destinée et alla ouvrir.
« Il me semble, dit Irène d'un ton pincé, que vous n'êtes guère en train aujourd'hui.
À quoi le voyez-vous?
Vous avez l'air endormi, vous avez les yeux gonflés. Je croyais pourtant que je vous inspirais.
Je suis fatiguée. » Elle le regarda avec ironie, les yeux vifs, le visage reposé et frais.
Oui, n'est-ce pas? Les premiers beaux jours sont très fatigants.
Ils ne le sont peut-être pas pour tout le monde. En tous les cas, ils le sont pour moi. Irène Papin apportait dans cet atelier où tout était vieux, même les couleurs de la veille sur la palette, l'air et la lumière du dehors. Elle le sentait et elle en était fière.
Ah, il lui avait dit qu'il était d'une laideur qui l'inspirait. Eh bien, cette laideur ne se laisserait pas faire. Je vois que vous ne voulez pas travailler, continua Irène.
Mais si, répondait le jeune artiste, qui venait subitement de craindre que son modèle ne l'abandonnât avant que la toile fût terminée.
Vraiment ?
Florent Mauga s'était ressaisi. Le malaise où l'avait plongé cette première journée de printemps s'était dissipé.
Asseyez-vous, mademoiselle. C'est que, justement, je suis venu vous dire que je ne pourrais plus poser pour vous. J'ai eu la maladresse de parler de vous à mon père. Quand il a appris que je me rendais dans un atelier, il s'est emporté. Il faut que je m'en aille.
Vous ne reviendrez pas ?
Non.
Florent regarda avec tristesse le portrait qu'il avait commencé. Il se trouvait sur un chevalet, dans un coin de l'atelier. C'était l'habituel tableau inachevé, sans fond, sans main.
C'est dommage, se contenta de répondre le peintre. Vous ne serez pas en peine pour me trouver une remplaçante.
En disant ces mots, Irène s'apprêta à sortir.
« Adieu, monsieur »
dit-elle, sans pourtant refermer la porte.
« Mademoiselle, si vous vouliez venir 3 ou 4 fois encore, pas plus, ce serait si gentil de votre part. »« C'est impossible, à moins que vous n'alliez vous-même demander à mon père qu'il me donne la permission de poser pour vous. »
Sur ces mots, elle disparut. Resté seul, Florent Mauga se mit à marcher, non pas de long en large, car son atelier était encombré, mais en contournant chaque obstacle comme s'il eût suivi un sentier tortueux. De temps en temps, il s'arrêtait devant le portrait inachevé.
Une rage impuissante l'envahissait alors, celle d'un homme qui, au moment d'atteindre le but qu'il s'est fixé, verrait un événement insignifiant l'arrêter net. Il devait se retenir pour ne pas crever cette toile du poing, pour ne pas renverser le chevalet. N'avait-il pas mis toutes ses espérances dans ce portrait? Chaque soir, depuis une semaine déjà, dans le petit lit cage qui, le jour, replié sous un châle, avait le volume d'un stère, ne s'était-il pas endormi à la pensée que demain il serait célèbre? La déception était trop grande pour qu'il demeurât chez lui. Il avait besoin de sortir, de ne plus être face à face avec lui-même, de se mêler à la vie pour oublier. Dehors, comme s'il venait d'une cave, il fut ébloui par la lumière, étourdi par l'animation qui régnait dans les rues. Sur le champ, tous ses soucis lui semblèrent ceux d'un autre. Réconforté, tout à la joie de cette journée de printemps, il se dirigea vers la place du Lion de Belfort, puis il descendit ce boulevard Raspail dont les arbres grandissent si lentement. Arrivé boulevard du Montparnasse, il passa deux ou trois fois devant les cafés, feignant de chercher quelqu'un, puis se rendit au jardin du Luxembourg par la rue Vavin. Sous une brume légère, resplendissant de soleil, le jardin semblait une campagne transportée à l'instant au cœur de Paris. Le long de petits arceaux bordant les pelouses, des mères étaient assises sur des pliants dont certains étaient de véritables fauteuils. Pendant une demi-heure peut-être, il se promena dans les allées, regardant tout avec des yeux de peintre. Il était 3 heures à l'horloge du Sénat, lorsque la pensée lui vint de se rendre au musée du Luxembourg. En une journée comme celle-ci, ne trouverait-il pas un réconfort à aller admirer les maîtres? La plupart d'entre eux n'avaient-ils pas connu des heures difficiles? Ils n'en avaient pas moins dit ce qu'ils avaient à dire. Florent ne s'attarda pas à contempler les statues qui peuplent la cour précédant le musée, à la fois parce qu'il les trouvait inertes et parce qu'il avait hâte de se recueillir devant cette femme aux gants de Carolus Duran qu'il admirait plus que tout et dont une reproduction était au mur de son atelier. Il faisait si beau que le musée était presque désert. Après avoir traversé la première salle tout encombrée de sculptures qu'il dédaigna, sauf l'ours blanc de Pompon, il ralentit sa marche en visiteur qui sait ce qu'il est venu voir. Mais quel ne fut pas son mécontentement quand, devant la femme aux gants, il trouva deux femmes immobiles alors qu'il y avait 1000 autres tableaux devant lesquels il n'y avait personne. Qui, en dehors de lui, pouvait accorder tant d'intérêt à la femme aux gants? Il s'approcha pour voir de face les deux femmes qui lui tournaient le dos et dont l'insistance qu'elle mettait à contempler l'œuvre de Carolus Duran lui portait sur les nerfs. Soudain, la respiration lui manqua. Il eut, durant un instant, l'étrange sensation qu'un souffle léger caressait sa poitrine, bien qu'il fût vêtu. Puis le sang lui monta à la tête. Machinalement, il toucha son visage. Celui-ci était glacé. Que s'était-il passé? Le regard de Florent venait de rencontrer celui de l'une des deux personnes contre lesquelles, un instant avant, il avait pesté, un regard bleu, auprès duquel celui de la femme aux gants semblait éteint, presque animal. C'était celui d'une jeune fille de 18 ans peut-être, grande, si pâle que les lèvres, à peine colorées pourtant, paraissaient d'un rouge éclatant. En passant près d'elle, Florent ne put soutenir ce regard. Il baissa les yeux, continua son chemin, ne s'arrêta que quelques pas plus loin. Un canapé se trouvait près de lui. Par contenance, il s'assit, puis, au bout d'un moment, se retourna. La compagne de cette jeune fille était visiblement une institutrice anglaise. Vêtue d'un tailleur, cravatée comme un homme, il ne lui manquait que des insignes et un baudrier pour rappeler quelques dames gradées de l'armée du salut. Quelques instants après, les deux inconnus s'éloignèrent, mais Florent n'en profita pas pour aller contempler la femme aux gants. Cette dernière n'était plus qu'un peu de couleur sur la toile, à côté de cette jeune fille de chair qu'il voyait, en tremblant, s'avancer vers lui. De nouveau, les regards des deux jeunes gens se rencontrèrent. Cette fois, ce fut l'inconnue, rougissante, qui détourna la tête la première. Florent Maugas se leva. comme il aurait voulu lui parler, lui dire ce qu'il ressentait. Personne, jusqu'à ce jour, ne lui avait fait une telle impression. À quoi fallait-il l'attribuer? Il l'ignorait. Pourtant, il avait rencontré souvent des jeunes filles aussi belles. Mais elle l'avait laissé indifférent. D'où venait que cet inconnu l'avait frappé à ce point? Parce qu'elle s'était trouvée devant la femme aux gants? Non, cela n'est pas possible, murmura le peintre. C'est autre chose. Il la suivit en demeurant, comme on dit, à une distance respectueuse. Les deux femmes quittèrent le musée, pénétrèrent dans le jardin du Luxembourg. De temps en temps, la jeune fille se retournait sous un prétexte quelconque. Florent était alors transporté de joie et, en même temps, saisi de crainte que l'inconnu ne désapprouvât intérieurement sa conduite. Mais si grande était l'impression que la jeune fille avait faite sur lui, qu'il eût encouru tous les blâmes pour avoir le bonheur de la voir une minute de plus. Finalement, il n'y tint plus. Profitant de ce qu'elle s'était arrêtée devant le terrain de longues paumes sur lequel des sportifs de notre âge, hommes à barbe et à bretelles, se renvoyaient une balle avec la même conscience que des sportifs d'aujourd'hui, ce qui faisait sourire la jeune fille, Florent s'approcha d'elle et lui glissa un billet en tremblant. Elle ne voulut pas le prendre. Son institutrice se retourna en ce moment. Elle le cacha alors aussitôt dans sa main. Au rendez-vous que venait de lui donner ainsi le peintre, elle répondit quelques instants après qu'elle s'y rendrait par un simple abaissement des paupières. Florent ne dormit pas de la nuit. C'était pour le lendemain, à la même heure, à côté du terrain de longues paumes, qui lui avait donné rendez-vous. Elle avait accepté. À certains moments, cependant, il s'assoupissait. Mais presque aussitôt, il se réveillait en sursaut. Non, il était impossible qu'elle vînt. Si encore il avait été un grand et beau garçon, il eût pu se faire qu'elle eût été séduite. Mais physiquement, il ressemblait à tout le monde. Comment, dans ces conditions, admettre qu'elle avait été frappée par sa personne, qu'elle avait deviné tout ce qu'il y avait de générosité et de délicatesse dans son cœur? Ce n'étaient pas les regards qu'ils avaient échangés, bien qu'ils eussent été d'une durée dépassant la moyenne, qui auraient pu faire que leurs âmes se fussent parlées. Il tombait alors dans un accablement que la nuit et la fatigue faisaient paraître plus grand encore. Le matin enfin arriva. « Elle m'a fait comprendre qu'elle viendra, » pensa Florent. « Cela veut dire qu'elle viendra, car si elle était capable de me mentir, je n'aurais pas été attiré par elle comme je l'ai été. Elle viendra, je le veux !» Le jeune homme déjeuna sans appétit. À une heure, il se trouvait déjà dans le jardin du Luxembourg. Bien qu'il fût en avance de 2 heures au rendez-vous, il ressentit une profonde déception en ne la voyant pas dans les parages du terrain de Longue Paume. Un instant, il eut l'impression qu'elle ne viendrait pas, impression si forte qu'il faillit repartir aussitôt. Tous les quarts d'heure, l'horloge du Sénat sonnait. Bientôt, à toutes les portes, les arrivants se firent de plus en plus nombreux. Il faisait moins beau que la veille. De temps en temps, un gros nuage blanc, isolé, emporté par le vent, masquait le soleil. 2 heures sonnèrent, puis 2 heures et demie. Dans un instant, elle allait arriver. Florent ne tenait pas en place. Il marchait comme un homme pressé autour du jeu de paume, se retournant à chaque instant, se penchant pour voir une femme qu'un arbre lui dissimulait, faisant demi-tour. Il avait tellement peur que cet inconnu ne vînt pas qu'il souhaitait de toutes ses forces que le temps s'arrêtât avant l'heure du rendez-vous. Parfois, il allait se planter au milieu du terrain de longues paumes, parmi les enfants, au risque de recevoir un ballon sur la tête, de façon que l'inconnu pût le voir plus facilement quand elle arriverait. Puis il repartait, toujours à grandes enjambées, tantôt vers les chevaux de bois, tantôt vers le chalet des gaufres. Soudain, il se mit à trembler de tous ses membres. 3 coups distincts venaient de sonner. Il était 3 heures. L'heure du rendez-vous était passée d'une seconde, de 2 secondes, de 3 secondes. Il regarda dans toutes les directions. Personne. Il courut presque se planter au milieu du terrain. Mais il ne pouvait rester immobile. Cette fois, ce n'était plus 3 secondes qui s'étaient écoulées, mais 5 minutes. Il perdit la tête. Il avait l'impression que plus il se déplaçait, plus il avait de chances que l'inconnu vînt. Puis il y eut un grand silence dans le jardin. Il s'arrêta, étonné. À ce moment, un seul coup, bien isolé, bien lourd, sonna à l'horloge du Sénat. Il était 3h15 et il était toujours seul.
Tian est digne ou non de ses soins.